Avec ce soir Philippe Martinez, l'ancien secrétaire général de la CGT. Bonsoir Philippe Martinez.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Avec vous deux, bien sûr, nous allons discuter, débattre de ces réunions autour de la réforme des retraites qui ont, si l'on suit bien les derniers événements, un peu du plomb dans l'aile depuis que le Premier ministre François Bayrou a dit non au retour aux 62 ans. Ça sème le trouble. La CGT, d'ailleurs, demande à ses instances de quitter les concertations. On va l'évoquer, mais écoutez François Bayrou aujourd'hui.
Est-ce que c'était possible de supprimer la réforme et de revenir aux 62 ans? Je prétends que ça n'est pas possible. J'ai répondu en conscience et je ne crois pas que qui que ce soit qui travaille sur ce sujet puisse prétendre qu'on peut en revenir à la retraite à 62 ans. Et je suis persuadé que les partenaires sociaux, dans leur ensemble, en viendront à une conclusion de cet ordre. Et donc, j'ai donné la main aux partenaires sociaux. On verra les propositions qu'ils font. Mais il n'est pas possible de dégrader l'équilibre financier du système de retraite déjà profondément abîmé.
Alors, le retour à 62 ans, c'est vraiment impossible, Alain ?
Écoutez, je crois que... À propos du retour à la retraite à 62 ans, la question n'est pas de savoir ce qui est souhaitable, mais de savoir ce qui est possible. Et moi, je crois que François Bayrou a raison et que, effectivement, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Ça n'est pas possible, je crois. D'une part, parce que déjà ce qu'a montré la Cour des comptes dans le bilan récent qu'on lui a demandé et qui n'a pas été contesté par les acteurs sociaux, c'était que même à 64 ans, de toute façon, on va vers un déficit croissant. La deuxième chose, c'est que tout le monde le sait malheureusement, on est dans une situation budgétaire déjà calamiteuse. Et donc, ça n'aide pas beaucoup à trouver un petit peu de flou autour de l'âge de la retraite. Bon, la troisième chose, c'est qu'on va être obligé de faire des dépenses supplémentaires pour la défense nationale et qu'il faudra bien les prendre quelque part, de toute façon. Et pour dire les choses, moi je crois que la France n'est pas une île et que quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins, qui ont les situations les plus comparables aux nôtres, ils vont tous dans le même sens. Et si j'avais, ça n'est pas une provocation que je fais, mais si j'avais un pari à faire, je suis persuadé que sous le prochain quinquennat, il y aura des propositions ou projets de loi pour porter la retraite à 65 ans.
Il y en avait déjà sous ce quinquennat,
oui,
d'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr.
Emmanuel Macron, au départ, il voulait 65 ans.
Hein. Oui, puis...
Mais je sais bien. Mais là, on l'a abandonné.
Édouard Philippe lui dit 67.
Oui, on a vu l'hypocrisie d'Édouard Philippe qui réclame 67 ans depuis quelques années et qui prend prétexte de la situation internationale pour remettre ça sur le tapis comme si on avait oublié ce qu'il avait dit. Bah, évidemment, moi, il y a un problème de forme et de fond. Quand le Premier ministre convoque le conclave... Il dit, tout est sur la table, y compris l'âge.
Sans totem ni tabou.
Exactement, exactement. Mmh. Donc dimanche, puis encore aujourd'hui à l'Assemblée, il dit, non, ça maintenant, on y... Et il rajoute même, parce que j'ai suivi ça sur... Il rajoute même, à titre personnel, comment un Premier ministre peut dire à l'Assemblée nationale qu'à titre personnel, il est pour... contre le retour à 62 ans et pour le maintien des 64 ans. Il y a un problème de méthode. C'est une arnaque pour les... Permettez-moi l'expression.
Pour les partenaires sociaux.
Pour ceux à qui on a dit, vous pouvez discuter. Et c'est, encore une fois, mépriser le dialogue social et ce qui se fait. Après, il y a un problème budgétaire. Personne ne l'a contesté, vous avez raison. Donc, est-ce qu'on travaille sur l'âge ? Et d'autres formes d'ailleurs, puisque d'autres. Ou est-ce qu'on travaille sur des recettes supplémentaires ? Il est là le fond du problème. Et moi, je pense qu'il faut travailler sur des recettes supplémentaires. Il y a des choses qui sont sur la table. Vous voyez, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est 6 milliards.
Oui, mais ils ne se décrètent pas. Ce n'est pas aussi simple que ça.
Ah, bah, il y a des lois.
Oui, mais visiblement, elles ne sont pas respectées.
Et voilà le problème.
Parce que ce n'est pas si simple.
Vous avez raison. Non, mais alors. Il y a des lois et on ne les respecte pas. Alors, dans certains cas, il faut les respecter.
Non, je suis d'accord avec vous, il faut les respecter.
Cas, on les respecte
il faut aller vers cette égalité.
6 milliards, 6 milliards. C'est déjà ce que met la Cour des comptes pour 2030, me semble-t-il. Après, il faut trouver les autres. D'autres recettes. Donc il y a des propositions. Et je vous avais dit la dernière fois qu'on s'était croisés sur ce plateau que je ne croyais pas la possibilité des partenaires sociaux, comme vous dites, c'est entre le patronat et les syndicats, de se mettre d'accord. Donc il fallait travailler différemment, que plusieurs propositions viennent sur la table, et puis après on laisse l'Assemblée nationale trancher. Bon. C'est la démocratie. Et sociale.
C'est vrai que la méthode
politique.
Est étonnante. On ne peut pas dire débrouillez-vous entre vous et puis au milieu du guet, mettre des lignes rouges.
Mais c'est pas le premier qui le fait, si vous permettez.
Non, bien sûr.
À chaque fois, j'en ai vécu quelques-unes, on nous dit vous négociez, peu, oui. Mais voilà, je veux tel résultat. C'est quand même assez compliqué
bon,
à gérer.
Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai trouvé d'une habileté folle que
François Bayrou
revienne pour parler de ça à ce moment-là.
Est-ce qu'il a fait une gaffe?
Si je vous dis que je trouve que c'est pas très malin, c'est que je considère que c'est une gaffe.
Non, mais c'est pour être une stratégie aussi.
Non, mais d'ailleurs, peut-être que dans sa tête, c'était une stratégie. Mmh. Parce que c'est une des hypothèses qu'on a fait, qu'en réalité, il voulait fixer une image, tout est au fond cumulé. Je suis un bon démocrate, j'ai non seulement permis, mais incité les acteurs sociaux à négocier entre eux. Mais je suis un gouvernant ferme, et donc je vous dis que ça ne peut pas être 62 ans.
D'autres disent que c'est peut-être une opération politicienne pour calmer le Parti Socialiste, mais l'enjeu est trop grave.
Ah bah là, ça ne peut pas être ça.
Du coup, ça ne calme pas le Parti Socialiste.
D'accord,
ça l'a peut-être calmé au début, mais là, c'est...
Au moment où il annonce le conclave.
Oui,
la situation est
un deal. C'est vrai.
Pour faire de la politique politicienne sur un sujet aussi crucial que l'air prête.
Alain, c'était bien une négociation entre le PS et François Bayrou, l'idée de ce conclave. Vous ne censurez pas le budget,
on vous offre l'occasion de rediscuter la réforme. Je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs, la démonstration de ça, c'est que les socialistes sont furieux de ce qu'il a dit. Bon, pour essayer d'être équitable, enfin on n'est jamais équitable dans un débat, mais pour essayer d'être équitable, François Bayrou avait dit d'un côté, je souhaite que la démocratie sociale vive et qu'ils puissent débattre et qu'on puisse prendre en considération leurs conclusions et qu'on puisse porter ça devant le Parlement, etc. Mais il avait dit aussi qu'il fallait veiller à ce que l'équilibre financier soit respecté. Il l'avait dit dès le début. Bon, cela étant... Je crois que chez la quasi-totalité des participants, du côté patronal et du côté syndical, personne ne se faisait d'illusions sur un accord. Parce que dès le départ, le MEDEF ne voulait pas entendre parler de revenir à 62 ans. À aucun moment.
Non, mais ça, on le sait. D'ailleurs, ils étaient les premiers partisans de la réforme.
C'est un jeu de rôle.
Non, je ne suis pas d'accord.
Un jeu de dupes.
Il faut changer de méthode.
Je ne suis pas d'accord. Je suis persuadé qu'ils savaient tous que sur l'âge lui-même, il y avait peu de chance. Enfin, pas peu de chance, il n'y avait aucune chance d'aboutir. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas, en discutant, un certain nombre d'améliorations à faire.
Sur quoi ? Sur la pénibilité ?
Ben, ça peut être sur la pénibilité, ça peut être sur les longues carrières, ça n'est pas synonyme, ça peut être pour les femmes, enfin, il y a toujours des choses à améliorer, d'ailleurs.
À condition de continuer de participer aux discussions, alors, Philippe Martinez, puisque là...
On vient d'apprendre que la CGT Fonction Publique quittait la table des négociations.
Oui, c'était annoncé. Non, c'est pas la même.
Mais la CGT nationale, là, qui dit, on conseille de ne pas continuer.
J'ai entendu, j'ai vu la déclaration de la direction nationale de la CGT, et qui consulte l'ensemble de ces organisations en proposant de quitter la table de
Il faut arrêter les frais, ça ne sert à rien de continuer ?
Moi, je laisse...
Non, mais vous-même, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est plutôt arrêter les économies qu'arrêter les frais.
Moi, je l'ai dit depuis longtemps. Premièrement, on se moque de la démocratie sociale, et plus les politiques qui nous gouvernent parlent de démocratie sociale, moins ils la pratiquent, et le président de la République est le premier. On l'a vu en 2023. Vous savez, quand tous les... Enfin, en France, vous êtes des experts de l'information. Quand tous les syndicats en France sont d'accord, c'est qu'il se passe quelque chose.
Et c'est tellement rare. Et à l'Assemblée nationale, les deux forces arrivées en tête étaient contre cette réforme des retraites. C'est important de le dire aux dernières législatives.
Je vous parle des questions sociales.
Même politiquement.
J'avais eu quelques critiques, j'avais des responsabilités à l'époque, de ce qui se passait à l'Assemblée nationale en 2023. J'étais pas le seul, on était d'accord avec Laurent Berger. Non. Mais rien que ça. quand toutes les organisations syndicales de salariés sont d'accord, c'est suffisamment rare dans ce pays pour que ça attire l'attention du gouvernement et du président de la République.
Il faut arrêter ce conclave ? Parce que vous dites qu'on se moque de nous.
Chaque semaine, les données du problème sont différentes. Je pense que oui, on peut s'énerver, on peut dire bon, il faut arrêter le.
Faut arrêter. L'Union des entreprises de proximité, l'UDP, est partie d'ailleurs.
Depuis ce matin. Il va rester la CFDT et le MEDEF.
La CFDT, sa secrétaire générale voit. François Bayrou ce soir.
Oui. Et elle est demain matin sur BFM TV.
Vous lui posez. Ah non, c'est pas vous.
Pour ça, c'est. Pour BFM, il fallait qu'elle ait quelque chose à annoncer, évidemment, d'important. Bon, mais j'en reviens à ce que vous disiez. C'est vrai que si la CGT s'en va, tout ça de continuer n'aura pas beaucoup de sens. Donc de continuer.
Elle est déjà partie, d'ailleurs.
Oui, dès le premier jour. Début, oui. Bien sûr, depuis le début. Bon, mais donc je pense que ça n'aura plus beaucoup de sens. Est-ce que ça veut dire que rien ne peut plus se passer ? Je n'en sais rien. Je suis d'accord que le décalage énorme qui a existé pendant la bataille sur la réforme des retraites, pendant lesquelles tous les syndicats étaient du même avis et où l'opinion publique était massivement derrière eux, comme très rarement d'ailleurs dans ces proportions-là, tout ça pesait. On en revient à la question... pas qu'est-ce qui est souhaitable. Je suis persuadé que si on faisait un référendum en disant qu'est-ce qui est souhaitable,
je vous parle de ce qui est possible. Arguments, on a travaillé, ça fait des années qu'on travaille, je vous assure. Sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, j'ai fait des démonstrations sur ce plateau, dans les ministères, qu'on virait, excusez-moi du terme, les vieux, et j'en faisais partie d'ailleurs, avec de l'argent public, dans les grandes entreprises d'ailleurs, parce que la situation n'est pas la même dans les grands groupes. Que dans les petites entreprises.
Non, mais je ne dis pas le contraire.
Ah, moi, c'est preuve à l'appui.
On a tous le souvenir d'une vague qui a existé où, à un moment, brusquement, les principales entreprises ont décidé de jouer à fond le jeu des pré-retraites, dans des conditions qui étaient d'ailleurs financièrement...
Et encore maintenant.
Oui, mais il y a eu un moment où il y a un mouvement massif. Oui.
Mais Alain et Philippe Martinez et Alain Duhamel, il y a une chose, c'est qu'on sent que ces négociations capotent toujours sur... l'âge de la retraite.
Oui.
Mais alors qu'aujourd'hui, pour les Français, ce qu'ils regardent au fil de leur carrière...
C'est l'espérance de durée de la retraite.
Ça, et la durée de cotisation, Philippe Martinez.
Les deux sont importantes, évidemment.
Oui, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un âge...
Moi, j'étais obligé de partir après l'âge légal, que je n'avais pas vu
Alors, ça sera le cas la plupart des gens.
Légal, quand je pense aux jeunes... qui rentrent sur le marché du travail, vous voyez, c'est encore plus décalé.
Même pour nous, j'ai regardé, et je dois aller au-delà de l'âge légal.
Donc il faut traiter les deux sujets.
Mais pourquoi garder un âge légal ? Pourquoi ne pas rester sur l'âge de la longueur des cotisations ?
Il faut traiter les deux sujets, et l'âge légal, et la durée de cotisation.
Pourquoi on ne supprime pas l'âge légal ?
C'est ceux qui ont des carrières hachées, et ce n'est pas toujours de leur fait. Les femmes, 80% des femmes... ont un temps partiel imposé. Oui. On va travailler jusqu'à 75 ans et beaucoup de femmes précaires ou à temps partiel ont des métiers très pénibles. Oui. Je pense magasins, le nettoyage, etc.
Moi, je me suis toujours posé deux questions.
Il faut trouver de l'argent, c'est ça le truc.
Il n'y a pas de doute, ça. C'est le seul point sur lequel on peut être d'accord à 100%. Mais moi, je me suis toujours posé des questions. D'une part, pourquoi est-ce que... On ne différencie pas.
Pardon, on a une image en direct. Pardon Alain, mais c'est une image que l'on attendait. C'est celle du président de la République, Emmanuel Macron, qui est en train d'arriver en ce moment même à Berlin, où il va rencontrer le futur chancelier Friedrich Merz. Et on sait que l'Allemagne est à un point de bascule important dans sa politique avec la création d'un fonds de 500 milliards, ce qu'on appelle le fonds Bazooka, pour relancer une politique d'infrastructure, une politique de sécurité et une politique d'armement. Et le président de la République... ainsi que le futur chancelier prendront la parole de manière conjointe tout à l'heure à 18h45 et on le vivra en direct.
Oui.
Bon, c'était juste pour voir cette image.
Sur les 500 milliards en question, il y en a une partie pour la défense, effectivement. Il y a une autre partie qui est que, contrairement à la France, l'Allemagne, pendant des décennies, a sacrifié les investissements publics et que les infrastructures allemandes sont dans un état lamentable. Oui. C'est le pays le plus riche d'Europe.
Et certains services publics. Par exemple, la petite enfance, Les femmes ont beaucoup plus de mal à travailler après la naissance d'un enfant parce qu'il n'y a pas de réseau de crèche comme nous
d'accord,
avons ici.
Cet argument, on peut faire un lien entre la défense et puis la réforme des retraites. Vous entendez cet argument en disant qu'on va avoir besoin de beaucoup d'argent pour se réarmer. Ce n'est pas le moment de dépenser plus pour nos retraites.
Mais on en met déjà beaucoup.
Mais pas assez, visiblement.
On en met déjà beaucoup.
Bon.
Ah oui, le budget.
Pour vous, c'est trop déjà.
On met beaucoup. Donc le budget a augmenté régulièrement.
Oui, mais là, visiblement, il faut le doubler.
Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce qu'il y a de la coordination en Europe? Parce qu'on peut mettre beaucoup d'argent pour continuer à développer l'industrie de défense des États-Unis. Comment on met
L'idée, c'est d'être une souveraineté. Ouais,
ça, c'est votre idée à vous. Moi, j'attends de.
Non, c'est celle que développe le président de la République.
Oui, d'accord, mais il y a un peu de monde en Europe. Combien il y a de pays? 27.
Vous aimeriez que les Allemands achètent européens et pas américains?
Qu'il y ait une coordination. Non, on parle beaucoup d'Europe industrielle, on parle beaucoup d'Europe sociale.
C'est vrai. C'est d'ailleurs un. Non, mais c'est un débat qui existe déjà. Alors, la France, évidemment, demande à juste titre. D'abord pour une question de logique commerciale élémentaire, et puis aussi, il faut bien le dire, parce qu'on a la plus puissante des industries d'armement en Europe. Et donc la France demande qu'il y ait une préférence européenne, ça existe hein, dans certains domaines, et à l'étranger, il y a des préférences américaines, des préférences russes, des préférences chinoises, donc ça n'est pas aberrant et ça serait absolument logique. Mais pour en terminer sur cette histoire...
Dernier mot.
Bon, alors, dernier mot, la France n'est pas une île, regardons autour de nous les pays qui sont comparables.
Et moi, je ne suis pas Robinson Crusoe, et donc je discute, j'ai discuté beaucoup avec des collègues syndicalistes européens qui nous regardent avec envie et qui.
Il y a aussi des combats en Europe sur ces questions-là, s'il vous plaît. Il y a deux problèmes. Il y a ce qu'on souhaite, et je comprends très bien que beaucoup de gens souhaitent.
Mais c'est faisable. Merci Philippe Martinez.
D'accord, je voulais l'inviter à travailler 3 mois sur une chaîne automobile, mais vous avez dépassé.
À 80 ans, vous voulez le faire travailler? Ah bah bravo, monsieur Martinez.
Il aurait dû le faire avant pour voir ce que c'est.
85.
Pour voir ce que c'est que la pénibilité du travail.
Voilà, il continue de cotiser là.
Merci Alain Duhamel.